Page arrachée au journal de Michel Léris, lue par Jean-Louis Trintignant.
Encore dimanche, les bras tout chargés de fleurs, je suis entrée dans notre chambre, le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas. Et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur.
1929.
12 mai. Je crois qu'un des facteurs qui nous pousse à écrire, c'est l'incapacité dans laquelle nous sommes de trouver un livre qui nous satisfasse pleinement. Ce livre n'existant pas, nous en sommes réduits à essayer de le fabriquer nous-mêmes. Pour qu'un livre soit satisfaisant, il faudrait qu'il ne fasse pas partie de cette réalité de seconde zone qui compose les écrans, mais que, par lui-même, il constitue un événement aussi réel qu'une aventure ou qu'un objet naturel. Il faudrait donc qu'il soit absolument concret. Bien entendu, rien de réaliste là-dedans. Le plus grand intérêt de la poésie pour celui qui s'y livre en créateur est qu'il substitue sa propre conception du monde aux conceptions toutes faites que lui fournissent les systèmes déjà existants. Ainsi, il n'est séparé de la nature que par le minimum d'écran. Le travail révolutionnaire communiste doit aboutir au même résultat, en diminuant, pour ainsi dire, l'opacité de l'écran social. Mais cela ne peut se produire qu'à très longue échéance, et l'individu qui s'y livre en ce moment ne peut avoir aucun espoir de voir cela se réaliser de son vivant. De là vient ce malaise qui nous déchire, devoir choisir entre deux formes d'activité, l'une constituant une solution fictive peut-être mais immédiate, l'autre une solution peut-être réelle, mais sur laquelle il nous est difficile de compter pratiquement, puisqu'elle implique un énorme laps de temps sans commune mesure avec nous à l'échelle de notre vie. Dans la critique des fondements de la psychologie, Politzer blâme à juste raison les écrivains qui se sont mis à la remorque des psychologues classiques, alors que le grand intérêt de l'activité littéraire consiste précisément, selon lui, à fournir des matériaux pour les études psychologiques, ou plutôt même à constituer à sa manière, il s'agit ici surtout de romans, un embryon de recherche psychologique concrète. Mais c'est toujours la même chose. Il est très difficile de fixer son domaine strict à la poésie, parce que son instrument est le langage qui sert à tant d'autres usages. Il est presque impossible de ne pas philosopher plus ou moins dans un poème. Et dès que l'on a fait intervenir par exemple des éléments pourtant poétiques au premier chef, tels que l'amour ou la mort, on fait déjà de la philosophie. Il ne saurait d'ailleurs être question d'assigner un domaine à la poésie. Elle a droit à tous les domaines. Et dans tous les domaines, il arrive qu'on la trouve en effet. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a sa manière à elle de poser les problèmes, et qu'il n'y a aucun intérêt à lui incorporer d'autres méthodes de position. Le comble de l'horreur aujourd'hui, n'est-ce pas Paul Valéry, philosophe-poète qui n'est qu'un Sully Prudhomme ayant lu et mal lu Mallarmé? La grosse erreur consiste peut-être à introduire dans les poèmes des éléments qui sont déjà poétiques en eux-mêmes. Par exemple, la vie des hors-la-loi, de ceux qui, à des titres divers, sont au banc de la société. C'est assez ce que j'ai fait dans mes poèmes de Quiberon, et aujourd'hui je crois que j'ai eu tort. J'ai fait là quelque chose d'analogue à ceux qui, se trouvant à court d'idées, s'en tirent en mettant des grands mots tels qu'infini ou éternité. Je compte beaucoup sur ces vacances prochaines pour travailler. Je crois que ce que je ferai alors sera déduit non pas de ce cahier, mais de sa négation. Ce sera comme une façon détournée de le déchirer. Je serai tenté de dire qu'il y a intérêt à se définir une esthétique parce que cela pousse en fin de compte à faire des choses qui en sont la destruction violente. Cela revient à une sorte de compression dont le seul rôle valable et l'explosion finale qui en résultera. 13 mai. J'ai eu ce matin, étant chez Pierre Quint, le sentiment très aigu de la fuite du temps. Je rapproche simplement ces trois dates. 1918, principal manifeste dada de Tristan Tzara. Décembre 1924, numéro 1 de la Révolution surréaliste. Mai 1929, je ne fais rien d'autre qu'écrire ces lignes. Je voudrais me replonger dans l'état où j'étais quand j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire en 1922. Je relis les livres que je lisais à cette époque-là, je cherche à tout me remémorer. Il s'agit pour moi maintenant de prendre un nouveau départ. De nouveau, je note quelques dates. 3 mars 1921, je vais pour la première fois chez Max Jacob. 28 octobre 1922, je dîne pour la première fois chez André Masson. 28 juillet 1924, je fais la connaissance de Desnos, qui parle de la révolution surréaliste. 19 février 1929, je romps officiellement avec le surréalisme. Il va bientôt y avoir 8 ans que j'écris, et je n'ai à peu près rien fait. J'ai écrit un poème d'un ton assez léger. C'est ce qui m'arrive généralement quand je me force à écrire quelque chose et qu'il me répugne de feindre un lyrisme que je n'éprouve pas. J'ignore tout à fait ce que peuvent valoir de telles productions, faites de plein sang-froid. Elles sont évidemment inférieures aux autres, mais je ne sais pas du tout si elles sont ou ne sont pas complètement dénuées d'intérêt. Je crois en tout cas qu'il est très important de ne pas se rouiller, pour parler trivialement. Il faut toujours maintenir son esprit en éveil. Lecture et réflexion ne suffisent pas, il faut écrire, car c'est seulement ainsi que la pensée est effective. Un des plus anciens tableaux de Masson. Il doit dater sans doute du début de 1923. C'est seulement maintenant, dégagé qu'il est de l'emprise surréaliste, qu'il a pu retrouver une si extraordinaire humanité. Sous une apparence différente, et que les imbéciles qualifieraient d'abstraite, ces tableaux actuels contiennent quelque chose d'aussi profondément humain que celui-ci, simplement ils sont moins sentimentaux, plus organiques et plus profonds. Une telle peinture est extrêmement différente de celle de Picasso. En effet, elle n'a à peu près rien d'intellectuel. Elle n'est pas sarcastique, mais seulement passionnée. Et même l'humour, lorsqu'il intervient, n'est pas froidement démoniaque comme chez Picasso. C'est pourquoi je suis plus sensible à la peinture de Masson qu'à celle de Picasso. De même que Rimbaud me touche plus que Lautréamont, Apollinaire plus que Jarry. Quand Zervos, écrivant sur Masson, parle d'élan sublime de bonté, cela est comique. Mais cela montre bien comment, effectivement, Masson s'oppose à Picasso. Pour revenir à ce tableau de 1923, certaines constatations s'imposent. On y trouve déjà une de ces constellations d'objets qui prendront une telle importance dans la peinture de Masson à son époque surréaliste. La grenade coupée, le verre de vin, le croûton qu'un des hommes tient à la main constituent les trois éléments de cette constellation dont le pain posé sur la table est comme la pierre angulaire. La scène, réaliste en apparence, recèle déjà une certaine magie, d'autant plus pénétrante qu'elle n'a pas encore tourné au symbole. Dans beaucoup de tableaux récents, ces constellations d'objets ont été remplacées par des constellations de parties du corps, particulièrement d'orifices tels qu'anus, vagin et, accessoirement, nombril. Ce sont ces constellations qui constituent les points fixes des tableaux. Autour d'elles, tout gravite, se noue et se dénoue. On peut dire qu'elles clouent le tableau sur la toile comme une bête vivante et tournoyante. C'est peut-être à cause de ces points fixes que les derniers tableaux de Masson ont une si tragique apparence de massacre, comme s'ils essayaient de se débattre et de se déclouer dans des affres immobiles de crucifiés. Canveller parle du dynamisme de la peinture de Masson, Karl Einstein d'identification totémique avec le sujet, Limbourg de sadisme Ce ne sont là que des vues partielles et il y aurait sans doute tout autre chose à dire. On pourrait parler de mouvement dialectique, d'ambivalence aussi, mais il faudrait préciser l'application de ces notions. Je me rappelle à l'époque où j'ai connu Max Jacob, alors que je ne connaissais absolument rien à la peinture, lui avoir parlé dans une lettre avec émerveillement d'un tableau de Fujita. Le tableau représentait, je crois, Orphée couché comme dans un tombeau et entouré d'animaux très variés, entre autres un petit éléphant. Je venais de lire L'Enchanteur pourrissant, c'est pourquoi ce tableau m'avait touché. Max Jacob m'ayant engueulé, j'avais pris la défense de Fujita en déclarant que ce peintre réalisait la synthèse entre l'esprit oriental et l'esprit occidental. Cela montre bien à quel point ces grandes et pompeuses généralités peuvent nous aider à nous duper. Rien ne parviendra jamais à remplacer le goût pour celui qui ne le possède pas. 14 mai. Bel exemple de lapsus freudien dans le passage où je me plains de mes amis, voire plus haut. Au lieu d'écrire Jack Dilly, j'avais écrit Robert Dilly, nom de l'oncle de cet ami, personnage que j'ai toujours détesté. Était-ce une façon détournée d'épargner cet ami et de faire retomber mes plaintes sur un autre, endosseur de toute la responsabilité? On devrait toujours noter ces lapsus. C'est tout aussi intéressant que les rêves. Si je me refuse à porter le deuil, c'est moins parce que je suis un esprit fort que par superstition, afin de me préserver de tout contact avec la mort. Il y aurait lieu de rechercher quelle part de superstition entre dans les actes où l'on croit faire preuve de rationalisme et de liberté. On doit pouvoir retrouver de la superstition dans toute espèce de chose, sans qu'il y ait la moindre exception. La poésie n'est qu'une longue lutte contre la mort. Qu'ont-je de connaître avec l'idée qu'on acquérera ainsi un moyen de la dominer? C'est en cela qu'elle se rapproche de la mystique, dont le seul but est d'acquérir, étant vivant, des gages tangibles d'immortalité. La hantise de l'absolu n'est que la hantise d'un plan où le temps n'existerait pas, de sorte que la mort y serait niée. On se crée un monde poétique parce que dans ce monde, tout paraît intangible et non soumis à la vicissitude des corps. À la base de toute évasion, ce n'est pas un désir de pureté qu'on trouve, mais la peur. Et même quand on croit vraiment aimer la pureté, ce n'est pas parce qu'étant intemporelle, elle est plus noble, mais seulement intemporelle, au sens strict du mot, c'est-à-dire non assujettie au temps et à la mort. Tout cela n'est que lâcheté religieuse, comme dit Karl Einstein. Il s'agit naturellement de processus qui sont très loin d'être nécessairement conscients. Ainsi, la poésie doit être conçue comme une drogue ou un vice dont le seul rôle est de faire oublier. Il y a aussi, chez celui qui écrit, une idée analogue à celle répandue autrefois, comme quoi, si l'on était atteint de la vérole, on pouvait s'en guérir en la communiquant. Le désir qu'on a de propager son pessimisme n'a peut-être pas d'autre cause. Toute activité artistique, quelle qu'elle soit, a pour racine cette guerre contre la mort. Cela ressemble aux immenses travaux d'assèchement qu'effectuèrent les Hollandais au XVIIe siècle pour conquérir des territoires sur la mer. Seulement, dans cette bataille que mène l'art, il n'y a jamais d'acquisition durable. Toutes ces victoires sont illusoires et n'ont de force que la force même de cette illusion. Il faut sans cesse reconquérir, bâtir de nouveaux pilotis jusqu'à ce que survienne le désastre final qui balaye tout et ne laisse surnager que quelques vagues et très maigres épaves. C'est la même déroute qu'après l'amour, l'alcool, une ivresse quelconque et n'importe quelle velléité d'action. L'ennui et le dégoût d'une certaine forme artistique réintroduisent la mort. Et c'est pourquoi il faut toujours inventer du nouveau, toujours surenchérir et ne jamais accepter de repos. Le septième jour de la Genèse celui durant lequel Dieu se repose, devrait être interprété comme un symbole du néant et de la mort. C'est pour cette raison allégorique, mais qu'on ressent profondément, que les dimanches et les jours de vacances sont à tel point déprimants. De même l'idée qu'il y a des gens qui prennent leur retraite et bâtissent des maisons pour que tranquillement s'y écoulent leurs vieux jours. La mort serait beaucoup plus acceptable si elle survenait d'un seul coup, sans qu'il y ait décrépitude. L'amoindrissement des forces mentales est une des choses qui me terrifie le plus. Et je peux bien dire que, si je continue à écrire, c'est en grande partie pour me démontrer que j'en suis encore capable, que je ne suis pas complètement gâteux. 16 mai. Titre de livre: Les fossiles de la mer. Rêve. Cela se passe dans un théâtre où je répète une pièce avec une femme, elle et moi ayons réellement l'un pour l'autre les sentiments que nous feignons d'avoir. À la fin, elle m'entraîne dans un escalier creusé à l'intérieur d'un autre escalier. Je la prends dans mes bras pour faire l'amour, puis je la vois étendue sur le sol, nue, avec, sur la ligne qui va du sexe au cou en passant par le nombril et le creux de la poitrine, des sortes de longues herbes blondes plantées par touffes à intervalles réguliers. Cette femme me paraît alors ressembler à Zette, ou être Zette. Dans ce rêve, je vais aussi rendre visite à Jenica Atanioussov, vers 8 heures du matin, à peu près sans motif. Je trouve son appartement plein de monde. Ses rêves se rapportent au théâtre à cause de Jean de la Lune, pièce de Marcel Achard vue la veille au soir. Il faudrait faire une pièce de théâtre dans laquelle toute hiérarchie entre personnages, décors, musique, bruit de coulisses serait supprimée. Exemple. D'abord, quelques notes de musique, puis quelques paroles d'un personnage, alors coup de revolver et chute d'un pan de décor. Rideau. Faire ce que je ne sais plus quel musicien croyait que Wagner avait fait lorsqu'il lui reprochait d'avoir mis la statue dans l'orchestre et le piédestal sur le théâtre. Lorsque Pascal, dans Les Pensées, explique comment certains événements relatés dans l'Ancien Testament sont des figures d'événements du Nouveau, il fait de l'occultisme. Léon Pierre Quin, un pédéraste, avec tous les vices du vieux garçon. 17 mai. Dîner avec Politzer et Baron. Parler du mauvais temps et de la revue de psychologie concrète. Il est certain qu'à côté de Politzer, tous les gens ont l'air de fantoches. Ils rigolent scandaleusement quand ils voient Charlot sur l'écran d'un cinéma. Je ne sais pourquoi, mais simplement peut-être parce qu'il fait beau et qu'hier j'ai dîné au dehors, je n'ai aucune envie de rester chez moi cet après-midi. Je regrette de n'avoir pris aucun rendez-vous. Je me lasse de ce journal. Hier, je n'ai à peu près rien écrit. Peut-être ai-je trop de livres sur ma table. Je commence à croire que tout le programme de travail que j'ai échafaudé depuis quelques jours est irréalisable, pour cette simple raison que je m'ennuie beaucoup trop chez moi. Dès que je suis resté un certain temps sans sortir, je m'ennuie tant que je ne peux plus rien faire ni lire. Alors c'est la rêvasserie érotique, l'envie de me branler. J'y cède souvent sans remords autre que celui de m'être fatigué bêtement. J'ai très régulièrement aussi des tentations de fétichisme et cherche longuement dans ma chambre avec quel objet je pourrais faire l'amour. Toutefois, jusqu'à présent, je n'en ai découvert aucun. La conception et l'organisation de l'amour dans nos sociétés sont d'une absurdité sans nom. Nous sommes des esclaves de je ne sais combien de préjugés. Une grande partie de notre malaise vient de cet état de choses déraisonnable. Monogamie, pudeur, etc. On peut dire que le bordel et le mariage bourgeois se conditionnent réciproquement. L'un ne peut aller sans l'autre, et ces deux institutions sont aussi imbéciles et inhumaines l'une que l'autre. Tout ce que je fais et pense n'est qu'une longue et gigantesque masturbation, une laborieuse tentative de m'exciter avec tout ce qui se passe dans ma propre tête, mon propre cœur, mon propre corps. C'est sous ce signe que je suis né et je ne vois pas ce que je pourrais faire pour m'en délivrer. Ce que je puis espérer de mieux, c'est de tirer de moi les matériaux d'une revanche éclatante sous forme de cette activité écrite, de la valeur de laquelle, pourtant, je doute tellement. J'ai cependant l'impression qu'à force de souhaiter cette revanche, j'arriverai bien à la forcer. C'est sur cette unique base que je vis autrement que comme un noyé. Je voudrais tomber malade à force de sincérité. Donner l'exemple unique d'un homme qui, somme toute, s'est rarement illusionné sur lui-même et a su, mieux que quiconque, voir clair en lui. Toutefois, j'ai une peur énorme que ce soit précisément en croyant à cette sincérité que je me trompe. J'aimerais avoir le courage d'écrire dans ce cahier des choses de ce genre. Aujourd'hui, j'ai chié de telle manière, j'ai fait l'amour de telle autre, j'ai pensé cela de telle ou telle, je me suis branlé, j'ai mangé de bon appétit, j'ai ri de telle stupidité, à tel moment de la journée j'ai cru que j'avais du génie, j'ai été flatté de telle chose qu'on m'a dite, j'ai espéré être publié dans telle revue, chez tel éditeur, j'ai eu peur de telle ou telle chose, etc., etc. C'est dans le même cercle vicieux qu'on s'empêtre lorsque, sous prétexte qu'on écrit pour exalter sa vie, on oublie de vivre parce qu'on écrit. On pourrait déduire de tout cela que la création poétique ne saurait être, et pour cause, qu'une création ex nihilo. Je suis vêtu d'un veston d'intérieur bleu vif à boutons dorés, genre blazer. Sur ma table, il y a cigarettes, buvards, crayons, livres, papiers, etc. Je suis assis face à la fenêtre et j'aperçois le temps qui se couvre légèrement et le soleil qui descend. De temps à autre, le soleil se ranime, puis se rassombrit, et semble exactement jouer à cache-cache avec ce que j'en dis. J'entends le tic-tac de ma petite pendule, la porte des cabinets qui se referme sur une des domestiques qui vient d'y entrer, de vagues bruits d'avions et de tramways. Maintenant, c'est la chasse d'eau qui se fait entendre momentanément. Puis l'avion qui se rapproche et que je cherche à voir. Tout cela est naturellement sans intérêt, et je dois bien convenir que j'ai une terrifiante quantité de temps à perdre pour m'amuser ou m'astreindre à noter pareille futilité. Je pourrais aussi bien dresser un catalogue de ma bibliothèque ou faire l'inventaire de tout ce que je possède.
J'aurais trop souffert, alors tu reviendras, mais je serai parti.
C'était Page arrachée au journal de Michel Léris, choisie et présentée par Jean Jamin, lue par Jean-Louis Trintignant et enregistrée au Festival d'Avignon en 1992 par Monique Burguière et François Connac, dans une réalisation de Claude Guerre. Remise en onde Sébastien Labarre et Claude Guerre. Assistant à la réalisation, Félix Levaché, avec la voix de Julie Pouillon.
Ils te diront que je t'aimais plus que ma vie.
Le journal de Michel Léris est publié aux éditions Gallimard.